eh bien, vous êtes dans l'émission Les mots de la foi et nous sommes toujours dans le compendium de la doctrine sociale de l'Église en ce qui concerne l'environnement. Nous avons vu précédemment comment le pape et les autorités chrétiennes avaient évoqué le souci de l'environnement et le souci de l'environnement pas tant pour les petites bêtes ou la biodiversité que pour l'homme qui habite cette terre. On a évoqué l'usage des biotechnologies, le rôle de chacun, scientifique, technicien, entrepreneur, y compris les journalistes ou bien les hommes politiques. Et puis dans la dernière partie de ce passage du 10e chapitre sur l'environnement, le pape et les autorités religieuses, dans les textes du Concile, on envisage l'environnement et le partage des biens. Parce que les biens de la terre, nous dit le texte, ont été créés par Dieu pour être savamment utilisés par tous. Donc ces biens doivent être équitablement partagés selon la justice et la charité.
Oui, parce que cela permettrait d'empêcher l'injustice de l'accaparement des ressources et que les problèmes écologiques actuels, qui ont un caractère planétaire, ne peuvent être affrontés efficacement que par la coopération internationale, qui seule peut garantir une meilleure coordination de l'utilisation des ressources de la Terre.
Alors sûrement, cette coopération internationale, nos hommes politiques en ont pris conscience, y compris l'Organisation des Nations Unies, puisque c'est cette année, en décembre 2015, que s'organise COP21 sur la question climatique, et ce qui veut dire qu'effectivement, une coopération internationale est nécessaire. Alors, pour lutter contre le réchauffement climatique, parce que cela atteint des régions les plus basses, des pays comme le Bangladesh, qui sont en même temps des régions les plus pauvres, et aussi, eh bien, retrouvons la destination universelle des biens,
oui, parce
nous
que,
dit l'Église.
Oui, parce que ce principe de la destination universelle pour tous des biens, ça donne une orientation qui est fondamentale, à la fois morale et culturelle, pour dénouer, nous dit le compendium, le nœud complexe et dramatique qui lie la crise environnementale et la pauvreté.
Et voilà, donc ces terres, justement, qui sont sujettes à l'érosion, qui sont sujettes à la désertification. Rappelons que le réchauffement climatique est en train de stériliser, au sud du Sahara, une bande de 400 km dans la zone sahélienne. Ce qui veut dire que les animaux qui étaient là et qui se nourrissaient doivent aller plus vers le sud et qu'il y a des conflits entre pasteurs et agriculteurs. Et derrière les conflits en Afrique, lorsque l'on dit eh bien ce sont des conflits religieux ou des conflits interethniques, en fait, il y a des conflits pour l'espace sur lequel on va cultiver pour pouvoir manger. La faim, là, est très présente. Donc, ce sont des pauvres qui habitent ces régions et le compendium nous le rappelle.
Oui, et puis un petit peu plus loin, bon, beaucoup de ces pauvres qui ont du mal à vivre de leurs terres quittent les terres pour aller vers les villes et les banlieues de ces villes de beaucoup de pays qui sont des banlieues proliférantes, polluées, avec beaucoup de bidonvilles qui portent des noms variés, hein, les slums en Inde, les favelas au Brésil, etc. Et c'est quelque chose qui est lié aussi aux problèmes environnementaux.
Donc, la question du partage des biens est soulevée ici. Et puis, le texte insiste aussi sur les transformations démographiques. Parce que quelquefois, on balaye ces questions en disant « mais s'ils faisaient moins d'enfants ou s'ils étaient moins nombreux ?» Alors, c'est vrai qu'il y a peut-être une question démographique, en oubliant d'ailleurs que dans nos pays, la question démographique a été résolue le jour où chaque famille s'est rendue compte que pour survivre quand elle serait âgée ou malade, elle pouvait compter non pas sur la solidarité familiale et le soin apporté par les enfants, mais sur la solidarité de la société qui permettait aux personnes âgées de recevoir des retraites, aux personnes malades d'être soignées. Comme dans les pays du Sud, il n'en est pas question, eh bien on fait des enfants en espérant qu'il y en a un qui pourra s'occuper de sa mère ou de ses parents quand il sera grand. Donc, ce n'est pas la démographie qu'il convient de maîtriser d'abord, mais c'est le social la capacité de vivre. Et une fois qu'on a cette capacité de vivre, eh bien, tout à fait naturellement, la démographie diminue.
Oui, ça c'est quelque chose qui a été constaté d'abord dans les pays les plus riches et puis qui commence à s'apercevoir dans les pays qui ont amorcé un développement économique plus important
et qui amorce aussi une transition démographique, c'est-à-dire le fait de faire baisser la natalité parce que finalement l'équilibre va mieux. Et alors parmi ces richesses qu'il convient de partager, et c'est aussi une question cruciale, c'est la question de l'eau.
Oui, parce que le texte insiste beaucoup sur le fait qu'il y a un droit à l'eau qui fait partie des droits de l'homme. Et que l'eau, en tant que don de Dieu, est un élément vital, indispensable à la survie, et donc un droit pour tous.
Et donc là, rappelons, 80% des maladies du monde, alors nous on pense cancer, crise cardiaque, mais 80% des maladies du monde sont liées au problème de l'eau et de l'assainissement. Alors d'une part, ne pas avoir accès à l'eau potable, c'est s'exposer à des maladies liées à l'eau, mais avec l'eau, il y a la question de l'assainissement. 80% des maladies. Réfléchissons à ce que cela représente. Donc, l'absence d'eau est souvent, nous dit le texte, cause de maladies, de souffrances, de conflits, de pauvreté et même de mort. Donc, voilà un lieu important de responsabilité de tous les hommes. Et l'eau, nous dit ce texte aussi, ne peut être considérée comme une simple marchandise.
Oui, parce que l'eau étant indispensable, sa distribution fait partie des responsabilités des États. Elle est considérée comme un bien public et c'est quelque chose qui doit être conservé. Le droit à l'eau, comme tous les droits de l'homme, se base sur la dignité humaine et non pas seulement sur des évaluations de type quantitatif. Sans eau, il n'y a pas de vie. Donc le droit à l'eau est un droit universel et inaliénable.
Eh bien, nous allons faire une pause musicale avant de parler des nouveaux styles de vie proposés par le Compendium.
Si tu savais le don de Dieu, c'est toi qui m'aurais demandé à boire. Je suis ton Dieu, ton Créateur, viens reposer sur mon cœur.
Nous sommes toujours dans les mots de la foi et nous évoquions avec le compendium le droit à l'eau.
Oui,
quelques exemples concrets.
Un exemple concret, en Californie, des villes ont été créées dans les déserts, des villes avec des golfs, des piscines au pied de chaque maison, dans les quartiers réservés à la classe aisée, la middle class américaine. Et à côté de ça, le Colorado, qui sert en grande partie à fournir cette eau, a été truffé de barrages. Et quand il arrive à son embouchure au Mexique, il n'y a plus rien, que du sel. Et les terres cultivables dans ces régions-là ont disparu.
Et pourtant, là, les autorités californiennes viennent de dire qu'il fallait diminuer de 30% sa consommation d'eau, y compris pour ceux qui ont ces golfs ou ces piscines.
Oui.
Donc on voit là
que même
que
dans
la
les
question
pays riches.
De l'eau, et là c'est un pays riche,
oui.
La Californie aux États-Unis. C'est dire ce qui se passe lorsqu'on évoque l'eau dans les pays du Proche-Orient, par exemple, et derrière nos guerres où nous voyons du pétrole, en fait, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi derrière ces questions de qui contrôle les eaux du Jourdain, qui contrôle les eaux de l'Euphrate ? Donc le droit à l'eau, c'est quelque chose d'important. Ce qui requiert, nous dit le texte proposé par l'Église, Un changement effectif de mentalité pour adopter un nouveau style de vie. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne va plus se laver.
Non.
Mais le texte propose une réflexion sur nos choix de consommation, d'épargne, d'investissement, qui soit à la recherche du vrai, du beau, du bon. Et la communion avec les autres hommes doit jouer aussi un rôle pour une croissance commune.
Oui, alors ces styles de vie doivent s'inspirer de la sobriété, de la tempérance, de l'autodiscipline, à la fois sur le plan personnel et social.
Donc peut-être voyons un peu la question des piscines, ou de l'eau pour remplir les piscines. Il y a effectivement quelque chose de très simple, c'est assurer le basique de l'eau distribuée gratuitement, et au-delà d'une certaine consommation, eh bien peut-être l'eau doit-elle être plus chère,
oui,
pour qu'on puisse aménager. Et dans certains pays, c'est quelque chose, c'est une politique qui commence à se pratiquer. Donc autodiscipline, réflexion sur notre consommation.
Et peut-être sortir de la logique de la simple consommation. Encourager des formes de production agricole et industrielle qui respectent la création et satisfassent en même temps les besoins primordiaux de tous. Peut-être mieux discerner ce qui est primordial et ce qui est superflu.
Alors à cet égard, et toujours en relation avec l'eau, par exemple, dans ces pays qui sont secs, il y avait eu la mise en place de semences qui avaient moins de rendement, mais qui pouvaient pousser tout en n'étant pas arrosées. Et finalement, souvent, pour favoriser la vente de semences, pour favoriser ce qu'on a appelé la révolution verte, on a poussé des pays à adopter des semences qui étaient soi-disant plus productives. Elles étaient plus productives, mais il fallait premièrement acheter ces semences, donc déjà des frais pour les paysans, et deuxièmement irriguer abondamment. Donc ces semences plus productives qui nécessitaient de l'irrigation sont maintenant des semences qui ont poussé des paysans à la misère parce qu'ils n'avaient pas d'argent pour les acheter, alors que les semences qu'ils utilisaient au préalable, qui avaient peut-être une rentabilité moindre, était mieux adapté. Donc là aussi, une réflexion sur ce qui est présenté comme des progrès. Le productif n'est pas toujours forcément le meilleur pour l'homme. Donc, nous dit le texte, la question écologique ne doit pas être affrontée seulement en raison des perspectives commerciales, mais elles doivent être aussi affrontées en tenant compte de la dégradation environnementale qu'elles produisent.
Oui, et elle doit
ça, donner, c'est la conclusion du passage.
Oui, une forte motivation pour une solidarité authentique à l'échelle mondiale.
Et alors la conclusion de tout ce passage, tout ce chapitre sur l'environnement, c'est ce que nous dit l'Église sur l'attitude de l'homme face à la création.
Oui, cette attitude est essentiellement celle de la gratitude et de la reconnaissance. Parce que le monde renvoie au mystère de Dieu créateur qui fait exister le monde. Donc, mettre entre parenthèses la relation avec Dieu équivaut à vider la nature de sa signification profonde.
Voilà, donc retrouver justement cette terre qui nous a été donnée par Dieu, et le monde, c'est le texte qui nous dit cela, le monde s'offre au regard de l'homme comme trace de Dieu, lieu où se révèle sa puissance créatrice, providentielle et rédemptrice. À nous d'en prendre soin, et surtout de prendre soin aussi de l'homme qui vit dans ce monde, c'est-à-dire prendre soin de nos frères. Eh bien, notre émission s'achève et je vous dis bonne semaine à tous.